Bonjour à tous. Et tout à l'heure, avant de venir, Isabelle m'a soufflé en disant « Pourquoi parler fort ?» J'ai dit « Oui, effectivement, souvent quand on parle très fort, ceux qui sont à côté peuvent être dérangés par le micro. Mais ceux qui nous suivent sur Zoom, voilà, que le Seigneur nous aide à permettre que tout ce qui est dit soit bien entendu et que la suite, nous puissions ensemble célébrer sa gloire. En tout cas, merci Daniel pour la présidence. Merci aussi à tout le monde, les musiciens et tous pour vos prières et tout ce que vous avez en tout cas apporté ensemble pour que nous puissions faire monter des louanges et de l'adoration qui est agréable à notre Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble méditer la parole de Dieu. Et cette parole se trouve J'ai oublié ma prédication quelque part, mais on va lire en attendant voilà, qu'on apporte ma prédication. On va lire les textes concernés. On va lire 2 Chroniques 7, verset 14. Et ensuite, on va aller lire Philippiens 2, verset 1 à 5. Merci Moïse. Ok, merci. Voilà. 2 Chroniques 7, verset 14 et Philippiens 2, verset 1 à 5. Le thème de ce message, c'est l'humilité, l'art de se mettre en question. L'humilité, l'art de se mettre en question. 2 Chroniques 7, verset 14, si quelqu'un l'a retrouvé, n'hésitez pas à nous lire avec le micro, cette fois-ci, s'il vous plaît, parce qu'au niveau de Zoom, c'est bien qu'ils entendent aussi ce que nous lisons ici. 2 Chroniques 7, verset 14.
Simon Peter, qui est appelé de mon nom humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays.
Amen. 2 Chroniques 7, verset 14. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Philippiens 2, versets 1 à 5. Philippiens 2, versets 1 à 5.
S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude créature soit identique à celle de Jésus.
Amen. Merci pour la lecture. Le verset 3 dit: ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Et là, ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble en Église, parce que l'année débute et nous devrions travailler ensemble, en commun accord, avancer ensemble dans le service du Seigneur, dans l'adoration et aussi dans la mission que Dieu a confiée à notre Église. Quelqu'un disait que le verbe aimer est un des verbes les plus difficiles à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est pas qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. C'est le poète Jean Cocteau, qui est un poète français, qui a écrit beaucoup de poèmes, de la littérature, et ça nous fait du bien de revoir que, effectivement, l'amour est un mot. Quand on dit l'amour, tout le monde aime. Ce qui attire, c'est l'amour. Mais maintenant, comment mettre en œuvre une vie d'amour, que ce soit en couple, en famille, en église, comment cet amour peut être mis en œuvre? Pour nous, avant de parler d'amour, qui est la première manifestation du fruit de l'esprit, comme le dit Galates 5, verset 22, parlons d'abord du virus juré de l'amour, c'est-à-dire l'orgueil. L'ennemi de l'amour, c'est l'orgueil. L'ennemi qui peut détruire tout amour, quel que soit le lieu que l'amour est présent, l'orgueil peut tout basculer et tout détruire. Nous allons essayer de définir d'abord ce qu'est l'orgueil. L'orgueil en grec dit hyperiphanéa, qui veut dire fierté, c'est-à-dire une estime excessive de sa propre valeur, de son importance sociale, c'est-à-dire une hypertrophie du moi et le plus souvent inconscient. C'est comme une grenouille qui se pense comme un bœuf. Une grenouille, vous savez, la grenouille, elle est petite, mais l'orgueil est comme cette grenouille qui se dit: je vais être comme le bœuf, et qui s'enfle. Martin Dugard disait: et si nous n'avons pas d'orgueil, nous ne plaindrons pas de l'orgueil d'autrui. Lui aussi, c'était un poète, c'est un écrivain romancier français qui dit que si nous n'avons pas d'orgueil en nous, on ne pourra jamais se plaindre de l'orgueil d'autrui. Qui montre à tel point chacun de nous a une graine, une germe de fierté. Personne ne veut vraiment être mené d'une manière ou d'une autre comme s'il n'était rien. Mais nous sommes tous d'accord que sans l'humilité, il n'y a pas de vrai amour. Sans une remise en question personnelle, individuelle et collective, il n'y a pas de travail d'équipe. Il n'y a pas d'église. Et surtout, nous savons bien que L'amour est celui qui est le plus attaqué par l'ennemi dans l'Église et dans le milieu où on veut proclamer la bonne nouvelle. Si l'ennemi veut attaquer l'Église, il commence par détruire l'amour les uns pour les autres. Il commence à envoyer, à envenimer de l'orgueil, de la suffisance, du moi. Il fait enfler le moi et jusqu'à ce que les choses commencent à se détériorer. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de considération les uns pour les autres, il n'y a plus de compassion. Tout ce qui compte, c'est le moi. Et le moi prend la place et fait basculer tout dans les rivalités. C'est pourquoi Paul, qui sait que l'église de Philippe, des Philippiens, était l'église qui était renommée d'être plein d'amour, plein de compassion, non seulement pour lui, mais pour les frères et sœurs. Et Paul va écrire à l'église, aux Philippiens, en disant, je vois que l'amour que vous avez en vous est attaqué. Et il faut se ressaisir et se mettre en question et travailler dans l'humilité. L'humilité est la véritable preuve de l'amour. Sans humilité, je ne peux pas aimer. Sans humilité, je ne pourrais pas écouter Isabelle quand elle me fait des reproches. Elle me dit tout à l'heure, il ne faut pas parler très fort au micro. Et j'ai dit, bon, d'accord, c'est entendu. Parce que le message qui est déjà travaillé m'a dit, si tu dis non, je ne parle pas fort, tu rentres dans les discussions, dans les débats, et finalement, tu vas dire non, je ne parle pas fort. J'ai dit simplement, oui, j'ai compris. Que le Seigneur nous donne, en tout cas, cette attitude d'humilité à tout point. Cependant, l'humilité ne veut pas dire se plaire de ses défauts, ses faiblesses et rester dans la médiocrité. C'est les reconnaître, les avouer et les accepter et accepter les qualités des autres, leurs faiblesses aussi et leurs défauts. Comment l'humilité peut-elle transformer nos relations et nous permettre d'avoir de l'impact dans notre Église? Comment l'humilité peut transformer nos relations individuelles et collectives et nous permettre en Église d'avoir de l'impact? D'abord, j'aimerais proposer des pistes. L'humilité construit et entretient notre relation avec Dieu et aussi avec les autres. Et ensuite, l'humilité manifeste la gloire de Dieu en nous et autour de nous. L'humilité construit notre relation avec Dieu. Et nous venons de lire Philippiens 2. Et si nous continuons le verset 6 à 9, va nous donner l'exemple par excellence de l'homme humble, de l'homme Dieu et humble à la fois, c'est-à-dire Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Si le peuple de Jésus-Christ s'humilie comme lui, le ciel serait ouvert 24 heures sur 24 pour nous, pour exaucer le peuple, pour répondre à nos prières, pour bénir son Église, pour faire avancer, progresser son Église. Si le peuple de Jésus-Christ était vraiment dans l'attitude de l'humilité comme lui, je peux vous confirmer qu'il y aurait un réveil en France, dans toutes les églises, pour impacter le pays et impacter le monde. Regardons tous les réveils dans les années et les siècles passés. Si nous considérons attentivement les réveils, ça passe toujours par un temps d'humilité. Dieu saisit quelqu'un, un groupe qui s'humilie, qui prie ensemble, qui pleure ensemble et qui se disent, enfin, il y a quelque chose qu'on a raté. Retournons à notre Seigneur dans l'humilité. Et là, le Seigneur agit avec puissance et envoie un réveil au niveau des églises et au niveau de la nation. Comme il a dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple s'humilie, prie. » L'humilité précède la gloire. L'humilité précède même l'amour. Sans humilité, il n'y a pas d'amour. Sans humilité, de véritable amour, il n'y en aura pas. Comment Jésus a été humble? Nous allons prendre l'exemple et lui demander sa grâce aussi pour nous de le suivre et de suivre ses pas. Jésus, Dieu, s'est abaissé. Dieu prend le corps humain dans sa bassesse pour venir vivre avec les hommes. Il n'y a pas de rivalité avec son Père. Jésus, Dieu, s'abaisse, accepte de venir dans le monde, de vivre la réalité du monde et de pleurer avec nous, de manger avec nous et de rire avec nous et de souffrir avec nous. Et sa souffrance lui a conduit jusqu'à la croix. Ensuite, deuxième caractère de Jésus qui démontre et qui manifeste son humilité, c'est-à-dire le maître devient serviteur. C'est une forme d'humilité. Comment pouvez-vous penser que celui, votre patron au travail, vous a embauché, vous paye votre salaire et vient faire comme vous et vient travailler les tâches avec qu'il vous donne avec vous. Voici ce que Jésus a fait. Il nous a créés, il nous a façonnés et il vient être serviteur. Il vient nous servir. Il ne regarde pas son rang, il ne regarde pas sa divinité, il ne regarde pas sa gloire, il ne regarde pas ce qu'il est intrinsèquement lié à sa nature divine. Mais il abandonne tous ses intérêts, comme il est dit dans Philippiens. Il ne les regarde pas, mais l'essentiel est de servir. Troisième caractère de Jésus humble, Jésus ne s'arrête pas aux a priori et aux préjugés, mais va à la rencontre des âmes. Nous prenons l'exemple de la femme samaritaine. Vous savez, Israël, les Israélites et les Samaritains, il n'y avait pas de rapport. Si un a 10 mètres, l'autre fait le chemin inverse. S'ils ne parlent pas, ils n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il va, il parle à la Samaritaine et lui dévoile ce qu'elle est, malgré sa condition. Elle a eu des mariages avec au moins 5 personnes. Si Jésus avait tenu compte de tous ces obstacles d'a priori et de préjugés, je pense qu'il allait faire aussi le même chemin, se détourner de la femme samaritaine. La femme adultère, même situation. On lui envoie une femme qui a été surprise dans une situation délicate. Et Jésus s'abaisse à terre et dit un seul mot, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et nous voyons ici un homme, Dieu plein d'humilité, qui s'abaisse devant la femme qui a été surprise, qui devait être condamnable par son péché, par la loi. Et Jésus dit, non, c'est lui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Quatrième caractère de Jésus humble, Jésus choisit de monter un ânon au lieu d'un cheval blanc ou un char pour illustrer sa royauté. L'homme Dieu entre à Jérusalem pour accomplir la volonté de Dieu et au lieu de rentrer à Jérusalem en fanfare avec des fanfares qui sonnent, tapis rouge, allez, et les soldats bien au garde-vous et les armes bien tenues. Non, il choisit le plus humble, l'ânon, l'âne. L'animal un peu méprisé, l'animal a tout à faire. Même si souvent on dit que l'âne est têtu, mais nous sommes d'accord que l'âne illustre la gentillesse et l'humilité. Nous voyons dans tous ces différents points que Jésus vraiment nous donne un exemple à suivre. Humilité en tout point, en toute situation. L'humilité imprégnait sa vie, imprégnait son ministère, imprégnait tout ce qu'il voulait accomplir pour l'humanité. L'humilité est l'élément fondateur de notre relation avec Dieu. Elle nous conduit à la repentance, à accéder à la chambre haute bénie de la grâce de Dieu pour dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire ensemble, ce n'est plus moi qui vis. Mon moi a été évincé par l'Esprit de Dieu, pour mettre à la place de mon moi le Christ qui vit par l'Esprit en nous, afin souvent de réprimer notre moi, de réprimer notre orgueil. Nous soumettre à Dieu, nous abandonner à lui, accepter sa volonté. Le moi est évincé et Dieu prenant sa place. Et cette humilité dans notre relation avec Dieu va transformer aussi notre relation les uns avec les autres. Si notre moi est évincé et mis à mort, et le Christ prenant la place de notre moi, nous allons voir que nos relations seront transformées les uns avec les autres. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Moïse rapidement pour dire que ce n'est pas seulement parce que Jésus est Dieu qu'il était humble de cette doux de cœur, mais aussi Dieu a saisi Moïse et c'était un homme qui était reconnu comme très humble et très doux. Quatre aspects de Moïse qui montrent, qui manifestent son humilité. Malgré ses réticences par rapport à l'appel de Dieu, lorsque Dieu a appelé Moïse, il y a eu beaucoup de réticences. Non, je ne sais pas parler. Non, ce n'est pas moi. peut-être d'autres, mais finalement, il s'est soumis à Dieu et a fait la volonté de Dieu. Deuxième aspect, il accepte d'être aidé par son frère Aaron qui parle mieux que lui. Tout le monde aimerait aider, être celui qui aide, mais recevoir une aide, recevoir l'aide de quelqu'un, il faut de l'humilité. Sinon, c'est impossible. La fierté va dire non, je me suffis à moi-même. Alors que le fait de dire oui, j'accepte l'aide, ça montre qu'on est prêt aussi à s'humilier. C'est ce que Moïse a fait lorsque Dieu lui a proposé Aaron. Il a dit, on y va. Aaron sait, peut m'aider aussi parce qu'il parle bien. Moi, je ne parle pas bien. Je parle, à peine les gens peuvent entendre les mots qui sortent de ma bouche. Mais Aaron, c'est un homme à parole. Il peut convaincre en 2 minutes. Il peut parler au pharaon avec autorité, avec force et conviction. Mais moi, je ne le peux pas. Et là, on voit Moïse accepter de l'aide pour compléter sa faiblesse. Se remettre en question. Troisième critère, lorsque son autorité est contestée, il ne dit rien, mais laisse Dieu le justifier. Ça fait partie des critères de l'humilité. Lorsque son autorité a été contestée par Myriam et Aaron, ses propres frères, hein, son propre frère et sa propre sœur ont commencé à soulever le peuple, à contester son autorité. C'est lui et pas nous. Ah non, c'est notre nous qui doit remplacer son lui. Le moi a saisi Myriam et Aaron pour contester l'autorité de Moïse. Et Moïse, dans la lecture de ces chapitres, nous voyons que Moïse n'a rien, absolument rien dit. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui va le défendre. C'est Dieu qui va agir. C'est Dieu qui va trancher. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas Aaron, ce n'est pas Myriam, c'est Dieu qui lui a appelé, c'est Dieu qui va aussi trancher les faits. Ça fait partie de l'humilité, c'est dire que le Seigneur me justifie, le Seigneur me défendra, le Seigneur combattra pour nous et nous garderons le silence. Ça fait partie de l'humilité. Moïse était aussi celui qui intercédait pour le peuple quand Dieu s'est mis en colère contre le peuple. Malgré que le peuple voulait même lapider Moïse, quand Dieu s'est mis en colère contre le peuple, il a dit non. Il s'est mis à genoux pour intercéder pour le peuple. Ça fait partie aussi de l'humilité. Prier même pour nos ennemis, prier même pour nos adversaires, prier même pour ceux qui nous persécutent, ça fait partie de l'humilité. L'humilité manifeste la gloire de Dieu autour de nous. Pour arriver à l'humilité, le chemin peut être long, discret et difficile. Nous prenons l'exemple de Naaman. Naaman, un chef militaire qui a dû apprendre à faire preuve d'humilité. Malgré son grade de chef d'armée, Dieu va l'amener à écouter une petite servante juive qui était dans sa maison. Une servante qui est venue d'un peuple ennemi de la Syrie, et Dieu saisit la servante pour dire à Naaman, je connais quelqu'un qui peut prier pour toi, pour les difficultés que tu as. Dieu, malgré la situation présente, Naaman va écouter la servante. Dieu le fait passer par le Jourdain pour remettre en question son rang, ses titres et même sa tradition pour aller vers la guérison de son orgueil et la guérison de sa lèpre. Dieu permet que lorsque Naaman est arrivé vers Élisée, il fait envoyer son parmi un soldat d'aller voir Élisée pour lui dire « Je suis là, il faut préparer le tapis rouge, il faut préparer les fanfares pour m'accueillir parce que je suis honoré dans mon pays, je suis l'état-major de la Syrie, donc il faut m'accueillir en chef. » Et Dieu lui dit, ça passera pas par là. Ça va passer par ton humilité. Et Élisée va lui dire, va dire à Naaman simplement de ne pas arriver là, de retourner au Jourdain et de se baigner 7 fois. Et c'est suffisant. Naaman attendait quelque chose à la hauteur de son rang et Dieu l'a fait passer par la discrétion, la simplicité, bref, l'humilité. Naaman va repartir en disant, non, je n'attendais pas à ça. Dans 2 Rois, verset 11, 5, verset 11, on lit, je pensais que cet homme viendrait vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Naaman était déçu, déçu du fait que Élisée lui dit non, tu dois aller te jeter dans le Jourdain 7 fois. Pourtant, c'est ce chemin que Dieu a choisi pour révéler sa gloire à toute la Syrie, à Israël, qu'il est Dieu Tout-Puissant. L'humilité, comme nous l'avons dit, précède la gloire. L'humilité précède l'amour. L'humilité précède le développement d'une communauté, d'une église. Dieu a décidé souverainement de passer par l'humilité de Naaman pour permettre qu'il retrouve la santé, la guérison et manifester sa gloire. Pour conclure, avec les 2 exemples, l'exemple de Jésus, l'exemple de Naaman dans l'Ancien Testament, nous montre que l'humilité mène à la repentance et à l'amour véritable, comme nous dit 1 Pierre 5, chapitre 5, versets 5 à 6. Il nous dit de se revêtir d'humilité comme un vêtement ne peut se faire comme un vêtement. Et l'humilité ne peut entrer dans notre cœur, dans notre vie, sans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'excellent couturier qui connaît notre taille parfaitement. Il connaît nos vêtements, il connaît si nous portons XL, ou si nous portons S, ou si nous portons 2XL. Il connaît ce qui nous convient en vêtements d'humilité. Et il va coudre le vêtement qui correspond à notre taille, pour la gloire de notre Dieu. L'humilité nous permet non seulement de nous remettre en question, mais de se repentir. L'humilité nous permet de refuser le dictat de notre moi et de rejeter, oui, de rejeter sa tyrannie. Que le Seigneur nous donne encore de grandir en humilité, afin que l'amour réel naissent en nous. L'amour inconditionnel de notre Seigneur Jésus puisse naître en nous. Nous allons aussi nous rappeler que l'orgueil est le piège fatal de l'ennemi contre l'Église. L'orgueil rend l'Église aveugle. Elle ne peut se remettre en question. Tout est bon. Tout est juste. Tout ce que nous faisons, c'est bon. Alors que l'humilité va permettre à l'Église de se remettre en question, est-ce que actuellement nous sommes réellement dans l'amour les uns pour les autres? Est-ce que réellement la façon dont nous avançons, nous sommes réellement dans la direction que le Seigneur nous a donnée? Et nous voyons dans les sept lettres aux églises, aux sept églises dans Apocalypse, que Jésus les mettait toujours en question, l'humilité et l'amour. Souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi, nous donne qu'il y a une question, une remise en question. Est-ce que actuellement tu es toujours dans cet état d'esprit d'humilité pour reconnaître là où tu es tombé afin de te repentir et d'être encore renouvelé dans l'amour et dans la paix? Si l'humilité croit en nous, l'amour a du bon terreau. L'amour ne peut naître sur un terrain sans humus, qui est la terre, qui est même dérivé de l'humilité. Le mot dérivé de l'humilité, c'est l'humus, c'est la terre. Si l'humilité est en abondance dans une église, certainement l'amour va naître aussi avec de beaux fruits à la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide, moi le premier, à recultiver de l'humilité. Souvent, je suis étonné que Isabelle, que Dieu a permis de placer à mes côtés, souvent, lorsqu'il voit que là, il est en train de passer à travers là, il me tapote, hey, calme-toi, doucement. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide aussi. Lorsque nous voyons l'orgueil en train de poindre, de naître en nous, de faire ses ravages, que le Seigneur nous permette d'avoir ce recul, de dire, je suis en train d'aller à travers. L'orgueil est silencieux. On ne le voit pas, mais il est nuisible tel le cancer pour détruire l'amour et finalement nous laisser dans un carcan vide. On fait les choses, ah oui, avec brillance, mais en réalité, est-ce qu'il y a de l'humilité? Est-ce qu'il y a de l'amour? Que le Seigneur nous aide à grandir en amour, afin de laisser l'humilité entraîner notre Église et aller de l'avant avec lui. Nous allons lire 1 Corinthiens 13 pour terminer, pour rappeler les fruits de l'amour, le fruit du Saint-Esprit qui fait naître toutes ces qualités que l'amour entraîne son peuple. 1 Corinthiens 13, si quelqu'un a retrouvé avant, n'hésitez pas, levez-vous et lisez à haute voix pour nous, s'il vous plaît. Un Corinthiens 13, on va lire à partir du verset 7. En toute occasion, peut-être avant, le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne recherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice, l'attriste, la vérité, le réjouit. Amen. Que l'amour puisse nous diriger et diriger toute notre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander pardon au nom de toute l'Église, au nom des frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te demander de nous pardonner. Combien de fois notre moi a pris le devant? Combien de fois l'orgueil a voulu détrôner ta présence dans nos cœurs? Combien de fois l'orgueil a voulu prendre le dessus sur l'humilité? Seigneur, nous repentons devant toi. Nous confessons que quand nous, il y a des graines, des grains, même si petits, d'orgueil, de fierté, et cela empêche ta gloire de luire, de se révéler en nous et dans ton Église. Seigneur, nous voulons nous repentir devant toi, sincèrement. Pardonne-moi toutefois quand j'ai agi avec orgueil, j'ai parlé avec orgueil. Oui, j'ai écouté avec orgueil. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Et nous te demandons, Seigneur, de visiter nos cœurs afin que notre moi soit évincé totalement et que toi, tu sois honoré dans nos cœurs, que dans nos prières, dans nos activités, dans nos programmes, dans notre vie d'Église, nous puissions, Seigneur, oui, vivre cela dans l'humilité, en considérant les uns les autres, en ne prenant pas toute la place, mais en te laissant toute la place. Seigneur, aide-nous. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur, mais c'est le chemin que nous devons passer pour voir ton esprit agir et que ton Église se réveille et que des âmes se convertissent et que l'amour soit répandu dans ton Église et à travers, oui, la mission de ton Église et que cela soit visible pour la gloire de ton nom. Rayonne encore, glorifie ton nom encore, manifeste ta présence encore, agis avec puissance et avec autorité. Que l'orgueil soit cloué à la croix. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'orgueil soit cloué à la croix et que seule l'humilité puisse inspirer nos actions, tout notre service, le ministère et la mission de l'Église, afin qu'elle porte du fruit et qu'elle glorifie ton nom pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.